Merci, Madame la Présidente, et je salue à mon tour la délégation du Pakistan avec laquelle je vais aborder les paragraphes 8, 10 et 11 en rapport avec le droit à la vie qui est protégé par l'article 6 du pacte sous ses différents aspects. Le paragraphe 8 concerne d'abord les obligations de l'État concernant les effets négatifs du changement climatique et de la dégradation de l'environnement sur le droit à la vie. Le droit à un environnement sain n'est certes pas protégé directement par le pacte, mais dans son observation générale numéro 36, notre comité a explicité les obligations négatives et positives des États en la matière, notamment lorsque la dégradation de l'environnement fait peser un risque sur la santé et la vie des personnes placées sous sa juridiction, notamment le droit à une vie digne. Or, ces dernières années, le Pakistan a été le théâtre d'événements climatiques extrêmes, ayant causé la mort de centaines de personnes, blessé beaucoup d'autres, entraîné des déplacements de populations importants et détruit des habitations et récoltes. Pluies et chutes de neige meurtrières en mars 2024, canicule avec des températures atteignant plus de 50 degrés Celsius dans certaines villes en juin 2024, qui s'ajoute bien entendu aux inondations meurtrières de juin à août 2022 qui ont submergé près d'un tiers du Pakistan et entraîné le déplacement de près de 8 millions de personnes avec des conditions de vie très précaires. Le Pakistan est à cet égard l'un des États les plus exposés au monde aux effets extrêmes des changements climatiques et ces événements climatiques touchent de manière très inégale les individus, les femmes, les populations rurales, celles vivant dans la pauvreté étant les plus durement touchées. Le comité prend note du rapport et des réponses de l'État sur ce point, notamment le plan d'adaptation 2023 et les diverses commissions établies au niveau local dont il est fait état dans le rapport. Néanmoins, d'après les informations que nous avons reçues, il n'y aurait pas de véritable politique durable de remplacement des énergies fossiles. Nous avons également reçu des informations inquiétantes sur les attaques dont les défenseurs de l'environnement seraient les victimes lorsqu'ils dénoncent, par exemple, les effets polluants de certaines activités d'entreprises publiques ou privées. Aussi, la délégation pourrait-elle expliquer les mesures durables, et j'insiste sur cette durabilité, prises à la fois pour remédier et prévenir les effets négatifs de la pollution et des changements climatiques sur les droits protégés par le pacte. De la même manière, la délégation pourrait-elle expliquer au comité ce qui est dit dans son rapport sur les tribunaux environnementaux qui sont mis en place au niveau des provinces. Ce qui est dit dans le rapport est vraiment très court, il n'y a pas d'informations. Aussi, nous aimerions savoir comment ces tribunaux fonctionnent, l'État peut-il nous donner plus d'informations sur leurs compétences, les décisions déjà rendues et les réparations accordées, le cas échéant. Avec les paragraphes 10 et 11, je poursuis sur le thème du droit à la vie, mais sous l'angle cette fois des disparitions forcées, assassinats ciblés, exécutions extrajudiciaires, défaut d'accès à la réparation et à la justice pour les victimes, et le cadre juridique applicable en droit interne. Je vais découper la thématique en deux catégories, ce qui continue à se passer en pratique, d'après les informations que nous avons reçues, et le cadre institutionnel et législatif qui reste problématique au regard des obligations de l'État de protéger le droit à la vie contre ce genre de violations graves. La pratique d'abord. Elle dénote une aggravation depuis le dernier dialogue de l'État avec le comité en 2017. Les disparitions forcées restent très élevées au Pakistan, comme le groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires l'a récemment indiqué dans son rapport. En 2024, le groupe de travail mentionnait que le nombre de demandes d'actions urgentes était le plus élevé depuis ces 5 dernières années. D'après nos informations, les disparitions forcées seraient largement répandues sur tout le territoire et continueraient à être l'un des moyens utilisés dans la politique antiterroriste dont vient de parler ma collègue Madame Crane, tout comme un moyen de restreindre l'espace civique ou un outil de répression des minorités. Les disparitions viseraient tout le monde, opposants politiques et membres de leur famille, journalistes, étudiants, activistes, défenseurs de droits de l'homme et de l'environnement. Cependant, dans cette pratique répandue, le Balochistan, dont il a déjà été question, est spécialement visé, tout comme les membres de la communauté Ahmadi, dont il a également été question, et les Pashtuns. L'on parle plus de dizaines de milliers de cas de disparitions forcées rapportées entre 2004 et 2024. Les disparitions forcées de courte durée seraient au surplus utilisées pour soustraire les individus à la protection de la loi et dans certains cas, le cas de M. Imra Riaz Khan par exemple, les personnes réapparaîtraient au bout de quelques temps pour être présentées à une cour militaire qui les juge et les condamne. Je reviendrai dans la seconde partie du dialogue sur la question de la justice militaire. Je porte également à l'attention de la délégation une autre information inquiétante sur laquelle le comité aimerait avoir des éclaircissements. En septembre 2024, la secrétaire générale de l'organisation non gouvernementale Voice for Baloch Missing Persons, Madame Sami Dean Baloch, n'a pas été autorisée à voyager ici à Genève pour rencontrer nos collègues du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Aux disparitions forcées s'ajouteraient, d'après nos informations, des exécutions extrajudiciaires, y compris sur le territoire d'autres États, donc exécutions extrajudiciaires de séparatistes, d'opposants politiques, d'activistes, de journalistes, dont Arshad Sharif, journaliste d'investigation, qui dénonçait la corruption gouvernementale et qui a été tué en 2022 de manière illégale, d'après la Haute Cour du Kenya. Ces personnes seraient placées sur une kill list sur laquelle, évidemment, notre comité aimerait entendre la délégation. Enfin, nous reviendrons dans la seconde partie du dialogue sur la fermeture de l'espace civique, mais ici, j'aimerais surtout entendre la délégation sur l'usage excessif de la force par la police, notamment à l'encontre de manifestants pacifiques qui dénoncent les disparitions forcées et les exécutions sommaires au Balochistan. Jusque et y compris, donc, usage excessif de la force et incidents ces dernières semaines, en septembre et octobre 2024. À ce jour, nous n'avons aucune information sur des enquêtes approfondies et indépendantes qui auraient été menées par les autorités dans le cadre de procédures judiciaires. Aussi, la délégation peut-elle communiquer des informations précises au comité sur ce qui est fait pour punir, sanctionner et surtout prévenir toute la liste de violations que j'ai évoqué, quelles sont les voies de recours qui seraient offertes aux victimes pour obtenir réparation. Et à cet égard, j'en viens justement au cadre légal, au cadre institutionnel dans lesquels s'inscrivent ces violations que j'ai évoquées. Au Pakistan, il existe une commission d'enquête sur les disparitions forcées, vous l'avez évoqué, monsieur le chef de la délégation, mais son indépendance et son efficacité ont été très sévèrement critiquées ou sont très sévèrement critiquées depuis plusieurs années. À ce propos, la Cour suprême du Pakistan a demandé en janvier 2024 à l'exécutif de rendre disponibles les informations concernant les membres de cette commission d'enquête et son mode de financement. Mais si mes informations sont correctes, à ce jour, la demande de la Cour suprême du Pakistan n'a pas été satisfaite. La délégation peut-elle nous indiquer pourquoi l'exécutif n'a pas mis en œuvre la décision de la Cour suprême et surtout l'État entend-il réformer cette commission pour la rendre fonctionnelle, indépendante et efficace en matière de prévention et de lutte contre les disparitions forcées? Par ailleurs, et je termine par ce point, cela fait plusieurs années que notre comité, comme les procédures spéciales des Nations Unies, appelle à une réforme du cadre législatif interne en faveur de la criminalisation dans le code pénal de la disparition forcée. J'ai noté dans le rapport de l'État la référence au projet de loi du 8 novembre 2021, mais d'après nos informations, ce projet a été suspendu et depuis lors, la réforme n'a pas bougé. La délégation pourrait-elle également donc apporter au comité des informations sur les raisons de cette absence de progrès? Et enfin, quelles sont les mesures prises pour collecter les informations concernant les disparus, mettre en place un registre, localiser les personnes disparues et rendre la dépouille aux familles des victimes pour qu'elles puissent faire leur deuil ?